Info matin, Nicolas Legrand.
Les organisations patronales et syndicales saluent le volet économique de l'accord Élysée-Oudinot. C'est le thème des Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, hier midi. Elisabeth Rivière se lance. La maire sortante du Mont d'Or a donné le ton de sa campagne hier au Vallon d'Or. Devant ses soutiens, elle a présenté une liste sans étiquette. Les 27 réunis à Bruxelles, il s'agit de se mettre d'accord sur la riposte en cas de regain de tension entre l'Union européenne et les États-Unis. Explication dans ce journal. Donald Trump lance son conseil de sécurité. Il ne s'agit pas de remplacer l'ONU, selon le président américain, mais de la bousculer. Ticket d'entrée pour les États qui veulent y siéger, 1 milliard de dollars. Les Républicains profitent de leur niche parlementaire. Au programme, la présomption de légitime défense pour les policiers ou encore le classement des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Le sport du tennis, c'est pas de nouvel exploit à l'Open d'Australie pour Arthur Géa. Le récent vainqueur du Challenger de Nouméa s'est incliné hier soir au deuxième tour contre l'expérimenté Stan Wawrinka. Il ne reste qu'un seul Français en lice, Corentin Moutet, qui défiera le numéro 1 mondial Alcaraz aujourd'hui en 16e. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil s'impose en cours de journée. Le vent de sud à sud-ouest se maintient entre 10 et 15 nœuds. Le temps est moins lourd, le mercure atteint entre 29 et 32 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité économique sur le territoire.
Oui, l'aide que l'État va apporter à la Nouvelle-Calédonie est une bonne nouvelle. L'avis était partagé hier par tous les invités des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, dans lesquels nous sommes revenus sur la partie économique de l'accord Élysée-Oudinot, Léo Fichou.
Oui, un plan annoncé par le Premier ministre après un travail d'aller-retour avec les acteurs calédoniens par le biais de la commission interministérielle qui était dirigée par Claire Durieux. Il a été signé par l'ensemble des partenaires calédoniens, représente une enveloppe de quelque 262 milliards de francs hors secteur nickel. Il prévoit aussi 2 années blanches avant que la Calédonie ne rembourse les prêts qui lui ont été accordés, ce qui va donner de l'air, a souligné le président de la CPME, Christophe Dautieu.
C'est un sacré soulagement pour le territoire. Aujourd'hui, on cherche des fonds à droite et à gauche. Ce poids qui est complété à cette charge, aujourd'hui d'être décalé de 2 ans, il me semble, qui donne plutôt une carotte à réformer au sein du territoire, donne un espoir vraiment de soulagement.
Tous les invités du magazine ont donc salué l'engagement financier de l'État. Pour autant, il suscite encore quelques questions. Écoutez le secrétaire général de l'USOINC, Jean-Marc Burette.
Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le texte est très général et que ce sont des fonds qui vont être versés au gouvernement, mais ils ne sont pas fléchés. Par exemple, retraite, nous, c'est une problématique du soin qu'on a mis sur la table depuis longtemps, la rupture de trésorerie sur les retraites, et cette enveloppe-là sert à peine à couvrir les retraites. Donc, quid du reste ? Il n'y aura pas assez ni pour le RUAM, ni pour les risques sociaux que va rencontrer la Nouvelle-Calédonie.
Il est donc important que la Calédonie engage des réformes structurelles, car l'aide de l'État ne couvre pas tous les besoins du secteur social, a confirmé Christophe Coulson, secrétaire général de l'UT CFE-CGC.
Non, ça ne suffira pas. Les aides de l'État ne suffiront pas. Concernant le régime de retraite du secteur privé, c'est une aide d'environ 2 milliards. Et il va manquer entre 6 et 7 milliards pour l'année 2026. Et concernant le RUAM, c'est dans un premier temps 6 milliards qui sont consacrés par l'État sur un manque d'environ 12 à 14 milliards. Donc il va falloir que nous et la Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, réfléchissions à trouver les moyens nécessaires pour combler la différence. Il faut qu'on se mette au boulot sur le sujet.
Une émission dans laquelle nous avons également parlé de l'aide au secteur nickel, mais aussi des retombées attendues de ce soutien à l'économie. Cet accord économique est donc une bonne nouvelle, mais il ne suffira pas, à ajouter le vice-président du MEDEF, Bertrand Courte.
Cet accord, c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie. Ça ne règle pas tout, loin de là, il y a du travail à faire. Mais sans cet accord-là, tout serait beaucoup plus compliqué. Très sincèrement, on le sait, que ce soit le RUAM, les retraites, on est dans une faillite quasi imminente. Les retraites, c'est mois d'avril ou mois de mai cette année, où il n'y a plus d'argent pour payer les pensions des retraités. Donc cet accord, c'est une opportunité, mais c'est un point de départ. Ne faisons pas, par contre, l'erreur de le considérer comme un point d'arrivée.
Des extraits des Jeudis de l'économie qui sont à retrouver dans leur intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
L'actualité politique en bref avec le congrès de l'Union calédonienne qui s'ouvre ce soir et pour 3 jours à la tribu de Penelo à Marais. Congrès particulièrement important dans le contexte actuel. Les travaux porteront évidemment sur la stratégie du parti par rapport aux discussions récentes et à l'accord Élysée-Oudinot. Un accord déjà rejeté par le président du FLNKS, Christian Théin. Mais ce congrès de l'UC sera aussi marqué par le renouvellement des instances du parti, de son bureau et de son président. Un poste occupé depuis novembre 2024 par Emmanuel Tchibaou. L'actualité politique toujours, Elisabeth Rivière se lance donc dans la campagne pour les municipales. L'actuel maire du Mont d'Or, qui a succédé en mai 2025 à Eddy Lecourieux, qui a démissionné pour raisons personnelles, a présenté hier une partie de son équipe au Vallon d'Or. Il s'agit d'une liste sans étiquette. On y retrouve des adjoints comme Olivier Berthelot, mais aussi des personnalités de la société civile comme Thierry Cornaille. Un choix assumé par Elisabeth Rivière, qui déclare vouloir conduire une liste d'ouverture plutôt que de bénéficier de l'étiquette du Rassemblement.
C'est une liste particulière avec une philosophie qui change. Malgré mon appartenance politique, j'ai décidé de m'engager sur cette commune pour les Mondoriens sans étiquette politique. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus confiance dans les politiques. Et gérer une commune, c'est faire de la politique pour servir la population, le vrai terme de la politique. Donc j'ai décidé, après mûre réflexion, de m'engager sur cette voie sans étiquette politique et surtout d'aller chercher des compétences pour que l'on puisse apporter ce qu'il y a de mieux pour les Mondoriens. Et les compétences ne s'arrêtent pas à une étiquette politique. Elles se trouvent partout dans la population, avec la diversité que l'on a sur le Mont d'Or et avec toutes ces compétences et cette richesse qu'il y a chez nos jeunes. Chez nos moins jeunes aussi, parce qu'on doit aussi utiliser l'expérience de nos anciens pour pouvoir avancer.
Elisabeth Rivière qui va décliner les axes de sa campagne en fonction des besoins des quartiers. Et pour elle, le débat ne doit pas tourner uniquement autour de la sécurité.
Tout le monde parle soi-disant de l'insécurité sur le Mont d'Or. Je pèse les mots quand je le dis. Cette insécurité, elle est véhiculée justement par toutes ces personnes, par des posts Facebook, par parfois de l'agressivité. Cette insécurité, elle n'existe pas qu'au Mont d'Or. Regardez ce qui se passe dans les autres communes. Alors oui, il y a des actes de délinquance, donc il faut qu'on les traite avec fermeté. Nous allons travailler à partir des quartiers de la ville du Mont d'Or pour décliner l'ensemble de nos axes, notamment la sécurité, notamment tout ce qui touche à nos jeunes, à nos enfants, tout ce qui va toucher à la vie associative, tout ce qui va toucher au secteur économique, surtout ce qui touche à l'environnement et à notre cadre de vie. Eh bien, nous allons travailler avec les habitants du Mont d'Or en confiance, en respect, pour qu'on décline sur chaque quartier les besoins par rapport à ces axes, parce que chaque quartier sont différents et ils ont besoin que l'on travaille par rapport aux besoins des populations qui y résident.
Elisabeth Rivière, qui mène donc la liste Tous Ensemble pour le Mont d'Or, a lancé officiellement sa campagne au Vallon d'Or hier matin. Signalons que pour le moment, seule Génération NC a aussi officialisé sa candidature sur la commune, une liste menée par Nina Julier. En bref, des travaux dimanche sur la voie express dans le sens Nouméa-Païta. La province sud prévient que dans le cadre du chantier de réparation des bosses du pont de Rivière-Salée, une dernière opération de vérinage est programmée dimanche de 6h à 18h. Une opération qui nécessite la fermeture de la route entre l'échangeur de Montravel et l'échangeur Bonaparte. Une déviation sera mise en place.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Commençons par la réponse à la question d'hier. 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent que la partie économique de l'accord Élysée-Oudinot leur donne confiance dans une possible relance. Ils sont 14% à ne pas partager cette confiance. Voici maintenant notre question du jour. Vous intéressez-vous déjà à la donne politique dans votre commune pour les élections municipales de mars prochain? Si vous vous y intéressez déjà, vous tapez 1. Si ce n'est pas le cas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à la question du jour. Et enfin, rendez-vous sur notre antenne avant de refermer cette page. Ce week-end, ce sont les journées mondiales de lutte contre la lèpre, une maladie encore présente dans le monde, y compris en Nouvelle-Calédonie. Une quête sera donc réalisée à cette occasion par l'Ordre de Malte. Son responsable en Nouvelle-Calédonie, Yann Carpentier, sera d'ailleurs notre invité du matin, tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h passées de 40 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité internationale.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Entreprise de Nouvelle-Calédonie, Malakoff Humanis vous informe. Depuis le 7 janvier 2026, le régime Agirc-Arrco a ouvert la plateforme déclarative DéclareZen. Vous pouvez dès à présent y effectuer vos déclarations de salaire 2025, soit par saisie de formulaire en ligne, soit par dépôt de fichier. Attention, la date limite de déclaration est fixée au 31 janvier 2026. Cette déclaration est indispensable pour le calcul des droits retraite de vos salariés. Pour toute question ou assistance, contactez-nous au 27 99 12.
Et Tantine, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Bellevie, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Bellevie.
Optique Bellevie, toutes vos lunettes en 3 jours.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite de l'actualité est Emmanuel Macron qui est à Bruxelles où il participe au Conseil européen extraordinaire. Le président veut que la France et l'Europe soient respectées, notamment par les États-Unis, droits de douane, Groenland, Ukraine. L'objectif des chefs d'État et de gouvernement européens reste inchangé, se mettre d'accord sur une réponse européenne. Arthur Delaborde.
Ce soir, l'escalade s'éloigne, la pression a baissé car le ton de Donald Trump s'est un peu adouci hier à Davos. Le président américain parle désormais d'un cadre d'accord sur le Groenland. Malgré tout, les 27 restent prudents à l'image d'Emmanuel Macron.
On a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose.
À ce stade, des sanctions contre Washington ne sont plus sur la table. Les choses rentrent dans le calme et il faut donc s'en féliciter, explique le président français. Plus question donc d'activer l'instrument anti-coercition avec ses restrictions d'accès au marché européen et ses limitations des exportations américaines. Le fameux bazooka dont l'utilisation avait été réclamée par Emmanuel Macron ces derniers jours face aux menaces commerciales de Donald Trump. Plus question non plus de s'orienter vers une option intermédiaire, l'adoption d'un paquet de représailles de 93 milliards d'euros, déjà prêt depuis quelques mois. Pour autant, ces instruments pourront être remis sur la table en cas de nouvelles menaces, prévient Emmanuel Macron.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et puisque ce sommet avait aussi pour but d'évoquer la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui lui est à Davos, cette fois s'est exprimé sur une possible paix dans son pays. En tout cas, selon lui, le dossier avance. Écoutez.
Aujourd'hui, nous avons eu une conversation avec l'équipe américaine et nous avons tous déclaré que les garanties de sécurité étaient finalisées. Le document est finalisé, nous devons signer, mais cela n'interviendra qu'après la cessation du conflit. Nous avons évoqué une question qui est la plus difficile. Tout tourne autour de la partie est de notre pays. Tout tourne autour des territoires. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu.
Et parallèlement, les émissaires de Donald Trump sont attendus ce matin à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Le moment fort de la journée à Davos, c'était la signature de la charte fondatrice du Conseil de paix, créée et dirigée par Donald Trump. Une vingtaine de dirigeants de pays ayant accepté de rejoindre cette nouvelle instance internationale étaient présents lors de cette cérémonie dans la station suisse. Parmi eux, le président argentin, le premier ministre hongrois ou encore le chef de la diplomatie saoudienne. Tout porte à croire que ce Conseil de paix servira d'alternative trumpienne à l'ONU, ce que dément formellement le président américain Jacques Serey pour Europe 1.
Donald Trump assume cette nouvelle méthode avec ce Conseil de paix. Le président américain veut peser directement sur les grands conflits internationaux. Cette instance qu'il présidera lui-même est censée remettre du mouvement là où la diplomatie piétine. Pour Donald Trump, il ne s'agit pas de remplacer l'ONU, mais de la bousculer. Il s'en est expliqué à Davos.
Nous pouvons faire beaucoup d'autres choses. Une fois que ce conseil sera complètement formé, nous pourrons faire à peu près tout ce que nous souhaitons et nous le ferons en coordination avec les Nations Unies. J'ai toujours dit que les Nations Unies avaient un énorme potentiel mais qu'elles ne l'utilisaient pas.
Parmi les États qui ont accepté de débourser 1 milliard de dollars pour obtenir un siège permanent à ce conseil de paix, l'Argentine, la Hongrie, le Maroc, la Turquie ou encore l'Indonésie, la France et le Royaume-Uni ont refusé. Des choix qui illustrent déjà la fracture diplomatique provoquée par cette initiative.
Donald Trump et ses menaces au cœur donc du sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bruxelles, sommet qui se conclut en ce moment. La terrible loi des séries qui se poursuit en Espagne. Un train de banlieue a percuté une grue aujourd'hui près de Carthagène, faisant plusieurs blessés légers. Il s'agit là du troisième accident ferroviaire en moins d'une semaine dans le pays. Mardi, un autre train de banlieue heurtait un mur effondré sur les voies de Catalogne. Une personne est décédée. Puis deux jours plus tôt, l'Andalousie était endeuillée par un déraillement impliquant deux trains à grande vitesse. Le dernier bilan, a priori définitif, fait état de 45 morts. Il est 6h46. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous dans ce journal. La suite, c'est l'actualité en métropole.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les deux minutes ? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicap et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête samedi et dimanche 24 et 25 janvier. Soyez généreux.
La rentrée chez Decathlon, du 14 janvier au 29 mars, c'est le vrai départ pour bouger. Tenue de classe ou de sport, chaussures, sacs, accessoires, tout pour une rentrée au top et toujours au meilleur prix. Avec maintenant deux magasins, toujours plus proches de chez vous, Nouméa Centre-Ville et à Pogoti. Et aussi le site www.decathlon.nc avec livraison sur tout le territoire. Alors, à fond la rentrée!
L'équipe de Maridé est là pour vous offrir une journée de détente. Réservez votre place sur amedeeisland.com.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec l'actualité nationale, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les Républicains qui avaient donc la main sur l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Il s'agit de leur niche parlementaire. Le groupe de Laurent Wauquiez a notamment fait voter une résolution qui vise à suspendre toute nouvelle création d'agence de l'État. Les députés ont aussi débattu d'une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Et hier soir pour nous, la droite a surtout fait adopter un texte qui vise à inscrire les Frères musulmans à la liste européenne des organisations terroristes. C'est là une victoire pour les LR qui revendiquent être à la pointe du combat contre l'islamisme. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Oui, absolument. La niche parlementaire, c'est toujours l'occasion d'envoyer des signaux et de porter des textes symboliques. C'est ce qu'a fait LR aujourd'hui avec cette proposition votée avec les voix du RN et du Bloc central. Alors, il ne s'agit que d'une résolution. Elle n'a pas de caractère contraignant pour le gouvernement. Mais l'essentiel est ailleurs, selon le patron du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez.
Ça n'est qu'un début pour nous, mais on est très fiers d'avoir réussi à poser sur cette journée d'initiative parlementaire, enfin, un signal d'arrêt de la soumission, de la lâcheté et de lucidité par rapport au danger que représentent les frères musulmans au sein de la République. On a vu aujourd'hui ceux qui défendaient la République et ceux qui cautionnaient l'islamisme et l'entrisme des frères musulmans.
Une référence aux 5 heures de débat houleux qui ont opposé la France insoumise et les écologistes au RN et à la droite. LR qui précise ne combattre ni l'islam ni les musulmans, mais une idéologie politique dont le projet est, je cite, de faire triompher la charia sur la loi de la République. Pour le groupe de Laurent Wauquiez, c'est aussi l'occasion de tourner la page du budget, alors que le groupe est la cible de nombreuses critiques après avoir annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement lors de son recours au 49-3.
Alexandre Chauveau pour Europe 1 à l'Assemblée nationale. L'actualité en métropole toujours est le parquet de Nice qui ouvre une information judiciaire pour assassinat après qu'un homme a froidement tué une jeune femme de 23 ans dans sa voiture devant son bébé. Un acte d'une violence qualifiée de barbare selon plusieurs candidats aux municipales de Nice. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs suspendu leur campagne jusqu'à dimanche. L'auteur de cet assassinat, lui, est toujours en fuite. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans la région.
Oui, l'individu qui est âgé de 45 ans est toujours activement recherché. Il est porteur d'une arme et donc considéré comme dangereux. On sait qu'il avait été placé en garde à vue il y a quelques jours pour des violences aggravées sur la belle-mère de la victime. Depuis un an, elle avait mis un terme à leur relation. Connu de la justice uniquement pour d'anciens délits routiers, il était parfaitement inséré et occupait un poste de gardien dans une école primaire de Nice. Toute la journée, l'établissement a fait l'objet d'une surveillance de la police, visible aux heures d'entrée et de sortie. Les serrures de l'école ont même été changées. Hier soir, le RAID était intervenu, constatant que le gymnase était éclairé, mais l'homme ne s'y trouvait pas. En début de soirée, circulant sur un scooter prêté, il avait tiré une dizaine de balles de 9 mm à bout portant à travers la vitre du véhicule où se trouvait la femme de 23 ans, ainsi que son enfant, miraculeusement indemne. A-t-il froidement et volontairement abattu Elisabeth ou pensait-il tirer sur le fils de son ancienne compagne en couple avec la malheureuse victime? A-t-il vu sur qui il faisait feu? L'enquête devra répondre à toutes ces questions.
L'actualité économique à présent est la Société Générale qui prévoit de supprimer 1800 postes en France d'ici fin 2027, sans procéder pourtant à un plan de départ. Le groupe évoque un projet de réorganisation qui s'appuiera sur des départs naturels et de la mobilité interne. Économie toujours, la fabrication de la molécule du paracétamol sera faite en France, en tout cas en une partie. Elle sert à faire le fameux Doliprane. L'affaire avait fait scandale, souvenez-vous, lorsqu'on apprenait que la production se faisait essentiellement en Inde. Écoutez les précisions de Ségolène de Marsac, la PDG France d'Opella.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on va produire cette molécule en France, sur le site de Roussillon, donc en Isère, à partir de la fin d'année 2025. Donc vous aurez vos premières boîtes de paracétamol, donc de Doliprane, avec à la fois tous les composants, mais incluant le paracétamol, le principe actif qui sera produit en France. Et l'objectif, c'est réellement de réduire notre dépendance à l'importance des principes actifs provenant de l'étranger.
La PDG France d'Opella, Ségolène de Marsac, dans La France bouge sur Europe 1. Toujours dans l'actualité économique, les lunettes d'Emmanuel Macron font recette. Henri Julien, le lunetier jurassien qui construit le modèle, confirme qu'il s'agit bien de ce fameux modèle Pacific 01S, fabriqué entièrement à la main pour un prix d'environ 80 000 francs. Il serait d'ailleurs en rupture de stock. Le chef de l'État porte ce modèle depuis plusieurs jours en raison d'un problème à l'œil. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou. On parlera évidemment de tennis avec la suite de l'Open d'Australie. Il n'y a plus qu'un Français en lice malheureusement. Arthur Géa, le chouchou du public de Nouméa, a perdu hier au deuxième tour face à Stan Wawrinka. On parlera également de handball avec l'Euro et puis du football et la Ligue Europa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que vous pouvez acheter malin grâce aux étiquettes énergie de vos appareils ? Les classes vous donnent également une idée de la consommation électrique et en eau par an, en plus d'autres informations utiles comme la capacité en kilos de vos appareils.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Optique Magenta Plage, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Retrouvez vos marques préférées au meilleur prix et votre seconde paire offerte toute l'année. Optique Magenta Plage, au centre médical Mediplage.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
La rentrée pour les parents, des enfants sages toute la journée. La réalité, des copains, des jeux, des bêtises et des vêtements soumis à rude épreuve. Heureusement, chez Gémeaux, il y a du choix et des prix plus qu'abordables pour des vêtements et des chaussures qui tiennent le coup.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du tennis à la une ce matin avec la fin hier soir du deuxième tour de l'Open d'Australie. Malheureusement, Léo Fichou, pas de nouvel exploit d'Arthur Géa. Il s'est incliné au bout du suspense.
Oui, le Français a tout tenté. Il a joué pendant plus de 4h30 contre un triple vainqueur du Grand Chelem. Arthur Géa a été poussé par de nombreux spectateurs français présents dans les tribunes, notamment quelques Calédoniens. Mais finalement, il a cédé en 5-7 au super tie-break, donc contre Stan Wawrinka. Écoutez l'éloge du Suisse pour Arthur Géa après la rencontre.
Il joue très bien et il a été très solide. Il a été très compliqué à trouver les solutions. C'est vrai qu'il a constamment essayé de faire son jeu en étant agressif. Il a un jeu qui n'est pas évident à jouer contre, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il, dès le début d'année, il gagne autant de matchs, tout simplement, parce qu'il a un très gros potentiel.
Le parcours s'arrête donc au deuxième tour pour Arthur Géa. Même chose chez les dames pour Varvara Gracheva. La dernière française en lice s'est inclinée en 2-7, 5-7, 2-6 contre la tête de série numéro 5 du tournoi, la Kazakh Elena Rybakina. Du coup, il ne reste qu'un seul Français, un homme, Corentin Moutet. Il est qualifié pour le troisième tour et sera opposé à la mi-journée au numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Parmi les autres rencontres, on suivra notamment Frances Tiafoe face à Alex de Minaur, Alexander Zverev contre Cameron Norrie ou encore la numéro 1 mondiale chez les dames, Arina Sabalenka contre Anastasia Potapova.
On reste en Australie pour suivre le Santos Tour Down Under. La troisième étape aujourd'hui ralliera Henley Beach à Nairn. Une étape longue de 140 km. Au classement général, c'est l'Australien de l'UAE Team Emirates, Jade Vine, qui est en tête. Il possède 6 secondes d'avance sur son coéquipier Jonathan Narvaez. Le premier français Nicolas Prodhomme est 18e à 1 minute 33 du leader. Du handball ce vendredi avec le tour préliminaire de l'Euro qui continue pour l'équipe de France. Après avoir battu la Norvège 38 à 34 lors du premier match, les Bleus sont opposés ce matin au Danemark et le score est de 8 partout actuellement. Du football avec la 7e journée de Ligue Europa également. On suit ce matin 3 clubs français aux ambitions très différentes, Léo Fichou.
Et l'Olympique Lyonnais d'abord. Les Gones en tête du classement sont sur la pelouse des Young Boys de Berne. La rencontre vient de se terminer et les Lyonnais se sont imposés 1-0. Ils conservent donc la première place du classement avec 6 victoires en 7 rencontres. Tout en bas du classement, autre objectif pour les Niçois, ne pas enchaîner une 7e défaite en 7 matchs. L'OGC Nice affrontera dès 7h les Hollandais du GA Eagles. Et puis en milieu de tableau, Lille veut croire encore à la qualification pour les barrages. Mais pour ça, les Dogs doivent s'imposer sur les Espagnols du Celta Vigo. Début de la rencontre, là aussi, ce sera à 7h.
Et on suivra tout ça, évidemment, tout à l'heure dans le mini-journal à 7h30 et dans le flash de 8h. On termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et pour les prévisions du temps, on vous retrouve Thierry.
Oui, pas de vigilance particulière pour ce vendredi
ça
matin.
Change.
Bah oui, ça change. Sur la façade ouest, le ciel sera nuageux avec éventuellement quelques ondées. Alors écoutez bien la suite. Sur l'île des Pins, Lifou et Marais, de belles éclaircies prédomineront, même si par moment des paquets nuageux circuleront ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Donc c'est une bonne nouvelle. Le vent pour ce matin, il sera orienté donc au lever du jour, il est orienté sud-ouest entre 10 et 15 nœuds. Après, il sera compris entre 15 et 20 nœuds sur la pointe sud. Sur la côte est, il reste un peu plus faible, entre 5 et 10 nœuds. Pour cet après-midi, le soleil s'imposera agrémenté de quelques remontées nuageuses sur le sud, les Loyautés et l'île des Pins. Le vent, lui, sera orienté sud-sud-ouest autour des 10 à 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur Marais et les pointes nord et sud de la Grande Terre. Sur l'est, des accélérations sont attendues dans l'axe de certaines vallées. Le temps est moins lourd pour les températures. Le mercure atteindra pour cet après-midi 29 à 32 degrés. Rapidement, on va jeter un coup d'œil pour la nuit prochaine. Des nuages remontant sur l'extrême sud-ouest, les Loyautés ainsi que sur l'île des Pins, mais sans conséquence. Ailleurs, la nuit sera bien étoilée. Le vent reste de secteur sud. Il faiblit autour des 5 à 10 nœuds, 10 à 15 nœuds aux pointes nord et sud de la Grande Terre, l'île des Pins et Marais. La côte est restera déventée pour ce soir. Les températures comprises pour cette nuit. Alors attention, 19 à 24 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry. Un coup d'œil rapidement aux cartes du week-end. C'est du beau temps pour ce week-end, Thierry ?
Oui, ils annoncent demain, donc samedi, beau temps sur le nord, l'est et le loyauté. Mitigé par contre sur le sud-ouest. Et bien sûr, on aura dimanche un temps ensoleillé avec encore quelques remontées nuageuses qui apporteront de rares averses. Et ben le vent sera plutôt calme pour dimanche et les températures seront agréables pour la saison. Donc un week-end plutôt bien en perspective.
Ben voilà, ça fait du bien de l'annoncer. Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.